Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'accompagnement des associations à l'utilisation de logiciels libres. Avec Jean-Marc Briand de l'UBAPAR, Union Bretonne pour l'animation des pays ruraux, Anne-Cécile Voisin de l'ADEC 56, association membre de l'UBAPAR, et Denis Dordogne d'Infini, hébergeur associatif, membre du collectif Chaton. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bonjour à Jean-Marc, Anne-Cécile et Denis. Tout le monde est là ?
Oui, bonjour.
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 Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission pour parler de l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres. Je vous propose de faire une courte présentation de votre structure, donc de dire aussi la fonction que vous occupez à l'intérieur de cette structure. Je propose de commencer par Jean-Marc, puis Anne-Cécile et puis Denis.
D'accord. Donc moi c'est Jean-Marc, je travaille à l'UBAPAR, donc l'Union Bretonne pour l'animation des pays ruraux, et qui est une fédération d'éducation populaire donc sur la région Bretagne, qui fédère environ 35 à 40 associations, structures associatives sur les territoires ruraux de la région, autour de l'animation communale ou intercommunale. Parfois ce sont des structures d'accueil ou bien des associations plus thématiques autour du sport en milieu rural, de la promotion ou de la défense des langues minoritaires comme le breton et le gallo en Bretagne, et puis aussi sur les aspects environnementaux. Pour aller vite.
Merci, et sur les aspects aussi culturels, comme c'est le cas de l'association ADEC 56, je laisse la parole à Anne-Cécile.
Oui, bonjour, donc moi je suis déléguée de l'ADEC 56, qui est un centre de ressources pour le théâtre des amateurs en Morbihan et qui est donc affilié à l'UBAPAR, puisqu'on accompagne les troupes de théâtre amateurs dans le Morbihan et qui sont pour la plupart les acteurs culturels de ces territoires ruraux.
Très bien, merci. C'est le tour de Denis Dordogne pour l'association Infini.
Oui, alors l'association Infini, une vieille association qui date de 1995, qui originellement fournissait l'accès Internet pour Brest, et puis aujourd'hui fournit des services sur Internet, fournit des services à ses adhérents de type Chaton, donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. On a déjà fait deux émissions dessus, donc je pense qu'il y aura les liens sur la page de l'émission.
Je confirme.
Voilà. Et du coup, actuellement, on participe aussi à défendre le logiciel libre localement. Donc on est membre de l'April depuis une quinzaine d'années, je pense.
Très bien, merci.
Pour préciser quand même, on a environ 350 adhérents, dont une bonne moitié c'est des associations et 5 ou 6 qui sont des fédérations d'associations.
350, j'ai bien compris ?
Oui, à peu près.
À peu près. D'accord. Donc, vous aurez compris, il y a trois structures de la Bretagne, c'était facile, et on a déjà compris quel est le lien entre l'UBAPAR et l'ADEC. L'ADEC est affiliée de l'UBAPAR, mais il y a aussi un lien entre l'UBAPAR et Infini. Je laisse Jean-Marc expliquer pourquoi.
Oui, l'UBAPAR est adhérent à l'association Infini depuis très longtemps, je pense plus de 20 ans. Car les premiers sites internet que nous avons mis en ligne l'étaient via les services d'hébergement de l'association Infini, déjà à l'époque. Donc on est, je pense, des adhérents de longue date parmi les 350 adhérents de l'association Infini. Et bien sûr, on s'est rapproché d'eux très naturellement parce qu'on défend déjà la proximité, la localisation en fait des personnes physiques qui font vivre, y compris les services de type numérique. Et puis parce que nous militons aussi pour le logiciel libre, même si à l'époque c'était un peu tôt pour nous, mais on s'y est mis assez rapidement dans la foulée un peu dans le courant du début des années 2000, on va dire.
Très bien. Donc, si j'ai bien compris, quand vous êtes rapproché à l'association Infini, donc l'hébergeur associatif Infini, vous êtes rapproché pour des raisons de proximité, mais vous n'étiez pas encore peut-être à fond pour le logiciel libre. Mais vous saviez déjà peut-être ce que c'était, mais ce n'était pas encore la raison principale.
Alors, peut-être pas, non. C'était un peu tôt. Moi, j'étais pas encore dans la maison Ubapar à l'époque. Mais j'y suis arrivé très peu de temps après, et c'est vrai que le logiciel libre était encore un petit peu trop, un peu en essence, quoi. C'est-à-dire qu'il était quand même compliqué de mettre à l'époque entre les mains de professionnels de l'animation du territoire des outils qui étaient en phase un petit peu de maturation à l'époque, quoi. Donc nous, on s'y est penché pour essuyer à quelque part un peu les plâtres pour nos adhérents assez rapidement. Donc comme je le disais, c'était assez tôt dans le début des années 2000. Et dès qu'on s'est senti capable d'accompagner nos adhérents, on a commencé à leur expliquer qu'il y avait des alternatives au logiciel qu'on qualifiait pas encore à l'époque de privatif, mais qu'on pouvait déjà qualifier de propriétaire. Oui.
Et effectivement, si vous allez voir sur le site de l'Ubapar, votre engagement en faveur de la promotion du logiciel libre est vraiment bien mis en avant. C'est vraiment quelque chose, on voit bien que c'est quelque chose de très important pour vous. Donc je voulais savoir quels sont les moyens, à part le site web, que vous mettez en place pour promouvoir le logiciel libre auprès de vos membres, pour leur expliquer l'intérêt d'utiliser ce type de solution.
Eh bien, alors là-dessus, on se cherche toujours un peu parce que c'est loin d'être évident d'accrocher un peu l'intérêt sur ce qui devrait n'être qu'un outil pour la plupart des adhérents de l'Ubapar, qui, dont le cœur de métier est souvent un peu en dehors de tout ce qui touche au numérique. Par contre, comme tout le monde, il est difficile d'échapper à ces logiques-là aussi. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est des formations déjà au logiciel libre auprès de nos adhérents, et on l'ouvre même vers l'extérieur en disant que nos communications via l'infolettre, via notre site internet. Des logiciels généralement qui restent dans les préoccupations, on va dire, des professionnels de l'animation, c'est-à-dire pouvoir utiliser un logiciel comme GIMP pour le traitement des images pixelisées, Inkscape pour les images numériques plutôt vectorielles, et puis Scribus pour la PAO, publication assistée par ordinateur, des outils importants pour générer ses propres supports de communication par rapport aux activités que nos adhérents peuvent proposer sur leur territoire. Et puis, il y a des logiciels libres plus en rapport avec la gestion associative ou des outils de travail collaboratif à distance aussi pour pouvoir permettre à nos adhérents de travailler sur tout le territoire, faciliter, on va dire, les échanges entre les divers professionnels de nos métiers sur l'ensemble du territoire sans nécessairement recourir à des réunions et à des déplacements intempestifs, on va dire. Après, au-delà de la formation proprement dit, il y a parfois des actions pures de communication autour de la promotion du libre. On a eu l'occasion d'organiser sur certains territoires volontaires des soirées projection débat, par exemple, autour, je pense, la dernière occasion où ça s'est présenté, c'était avec le film Nothing to Hide.
Si je me souviens bien, c'était à l'occasion du libre en fête. L'initiative oui, coordonnée par l'April.
Voilà, c'est ça. Oui, on essaie de se tenir justement un peu dans le créneau de Libre en fête. Tous les ans, on essaie d'organiser quelque chose. C'est pas tous les ans possible, mais on essaie le plus souvent possible de répondre présent à cette initiative-là. Et puis, on a aussi eu l'occasion d'organiser une journée de rencontre un peu autour de l'éducation populaire et du numérique, qu'on avait intitulé « Le numérique, ça nous regarde », en jouant un peu sur l'ambiguïté du terme, entre le fait que ça nous concerne et le fait que ça nous surveille aussi un peu.
Un beau titre.
Oui, ouais. Et ça nous avait permis justement d'attirer un peu l'attention des gens qui sont comme beaucoup plus, je dirais, en consommation de services numériques ou d'achat de matériel numérique sans trop savoir exactement ce qui se cache derrière, comment ça fonctionne et puis surtout quels sont les acteurs monopolistiques qui sont derrière. Voilà, discuter des enjeux avec les gens, quoi, directement, le plus directement possible. Alors après...
C'est dans la logique de l'éducation populaire en plus. Mais cette rencontre était du coup proposée pas qu'à vos membres, mais à un public plus large, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Nous, on communique publiquement, en fait, de nos actions et on n'est pas toujours... Enfin, ça va souvent au-delà de nos seuls adhérents. Il y a pas mal de gens qui se montrent intéressés pour nous suivre ou... venir écouter ou discuter avec nous sur ces thématiques-là.
Ça, c'est très important parce que ça veut dire que vous faites la promotion, pas que auprès de vos membres, mais auprès de beaucoup plus de personnes. Donc, vous avez vraiment un rôle important pour le logiciel libre sur le terrain. Et je voulais savoir quelle est la réaction, la réponse de vos membres. Vous m'avez dit à peu près 35 membres par rapport à la proposition de formation, de service. Est-ce que vos membres sont intéressés, se montrent intéressés, s'inscrivent aux formations? Quelle est leur réaction?
C'est variable en fait, parce que c'est vrai qu'à Libapar, nous, on n'a pas vocation à aider les gens à s'équiper de matériel ou de logiciels propriétaires. Donc, notre angle, il est très défense du logiciel libre. Et tout le monde n'est pas forcément prêt à prendre ce risque-là. Enfin, ils le voient comme un risque souvent parce qu'ils ne savent pas très bien ce qui se cache derrière. Parce qu'il y a parfois quelques réticences au changement aussi. Quand on a mis du temps à maîtriser un environnement comme celui de Windows, pour ne pas le nommer, et certains logiciels propriétaires, on n'a pas forcément tout de suite l'envie de changer ces habitudes-là.
La crainte du changement.
Ouais, il y a un certain frein au changement. Et puis, mais bon, c'est, encore une fois, c'est un effet qui peut se comprendre. Et heureusement, c'est pas forcément systématique. Heureusement, on a, par exemple, Anne-Cécile pourra parler d'une association un peu entre l'UBAPAR et ses membres qui date depuis longtemps et qui justement est en osmose dans l'évolution et dans la pérennité, on va dire, d'une installation et de l'utilisation de logiciels complètement libres depuis pas mal d'années.
Tout à fait.
Donc, c'est variable entre voilà des adhérents qui sont plus volontaires, qui voient bien l'enjeu et qui ont envie de s'affranchir d'un certain nombre de dépendances numériques. Et puis d'autres qui ont besoin de plus de temps pour franchir le pas.
C'est pour ça que le sujet principal ça s'appelle l'accompagnement des associations, parce qu'on ne peut pas prétendre non plus que le changement arrive sans l'accompagnement, sans quelqu'un qui aide, qui donne des tuyaux, qui soit présent.
Voilà.
Mais du coup... Je suis très contente de pouvoir avoir un témoignage d'Anne-Cécile Voisin, directrice de l'association ADEC 56, membre UBAPAR, parce que c'est typiquement le cas d'une association qui a répondu oui à l'appel essayer d'utiliser l'informatique libre. Donc Anne-Cécile, je voulais savoir un petit peu comment ton association s'est rapprochée des logiciels libres, par exemple si elle les connaissait déjà avant d'être adhérente de l'UBAPAR ou si vous avez commencé parce que vous étiez membre de l'UBAPAR, vous avez vu passer des annonces de formation. Je te laisse la parole.
Je pense pas qu'on les connaissait avant d'être membre de l'UBAPAR. Alors, moi, je suis arrivée, on était déjà membre de l'UBAPAR. Mais voilà, je pense pas qu'on utilisait les logiciels libres. Moi, si je remonte un peu la chronologie, je pense que la première utilisation, c'est arrivé sur au moment de l'informatisation de notre fonds documentaire, en fait, on a une bibliothèque spécialisée en théâtre. On voulait informatiser le fonds et là, l'UBAPAR, l'association à laquelle on était déjà affilié pour d'autres raisons, pour des raisons affinitaires en fait, l'UBAPAR avait une solution avec un logiciel libre qui est de gestion de fonds de bibliothèque, hein, PMB, et ce logiciel il répondait vraiment aux besoins de la DEC, et d'autant plus qu'en plus il nous a permis de personnaliser des éléments pour répondre encore plus que n'importe quel logiciel propriétaire à la spécialité qu'était notre fonds et du moteur de recherche qu'on voulait associer à ce fonds-là. Donc voilà, on a commencé comme ça, par un logiciel, et puis petit à petit, on s'est intéressé, et puis ça voilà, il y a eu plein d'autres utilisations depuis qui sont amenées par l'UBAPAR, et parfois parce qu'on a un besoin, mais d'autres fois parce que l'UBAPAR nous présente quelque chose, et donc on saute le pas, quoi.
On m'indique qu'il y a une question sur le salon de chat. D'accord, donc c'est pas pour Anne-Cécile, donc là je la ferai peut-être plus tard. Donc si j'ai bien compris, vous avez commencé par ce logiciel parce qu'il était proposé par l'UBAPAR, vous êtes rendu compte que ça matchait complètement avec vos besoins. Est-ce que vous étiez conscient aussi de l'éthique qui était derrière ce logiciel?
Je pense pas au départ, en tous les cas pas tous, dans l'équipe ou encore moins dans les adhérents. Moi j'ai souvenir le moment de la conviction et le moment qui fait que voilà on conscientise aussi que c'est un choix. Moi c'était après une projection d'un documentaire justement. L'UBAPAR en organisait comme ça sur les territoires et c'est après ce film là, un échange qui a suivi que là moi. Enfin, voilà, on était plusieurs des équipes, d'ailleurs des associations, pas que l'ADEC, mais d'autres associations, à se dire que, en tant qu'association d'éducation populaire, en fait, on s'y retrouvait vraiment dans les valeurs qui étaient portées par le libre, et que, voilà, il y avait, enfin, ça devenait évident aussi. Et ça, cette conviction, elle permettait sans doute de dépasser les résistances au changement dont parlait Jean-Marc, parce que c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai souvenir au tout début sur certaines choses. Peut-être sur les suites bureautiques ou sur des outils où il faut se refaire la main, la résistance, elle venait aussi du fait que les interfaces ou des logiciels propriétaires, elles sont souvent très séduisantes, elles paraissent très efficaces. Donc quand on a cette vision de l'efficacité un peu tac-tac, tout est fabriqué pour moi, j'ai plus qu'à à charger, tout s'est transformé comme par magie derrière, on a un peu de mal à se dire, ah oui, il faut que j'aille dans quelque chose qui est peut-être moins avenant, qui est moins coloré, et puis peut-être faire un peu plus par moi-même, mais parce que je peux faire plus de choses finalement et j'ai un potentiel plus grand. Mais bon, voilà, ce passage-là, il mérite d'être convaincu quand même par le sens du choix pour se motiver à, voilà, peut-être quitter des interfaces qui nous ont simplifié un peu le travail au départ, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voulais savoir, tu parles toujours on devait vaincre une petite résistance. Tu parles de combien de personnes et je voulais savoir c'est une personne en particulier ou plusieurs personnes qui ont réussi à convaincre les autres. Comment vous avez justement réussi à rassurer?
Après là c'est l'équipe des permanents surtout, hein, qui est confrontée au quotidien, donc on est trois permanents et à l'époque on devait être quatre d'ailleurs, et puis on accueille aussi des volontaires en service civique qui chaque année découvrent complètement le livre, immergé d'un coup d'un seul dans cet univers quand ils arrivent ici. Non, je pense que c'est à chaque fois l'UBAPAR qui d'ailleurs refait le travail de conviction, parce qu'on fait régulièrement des formations aussi professionnelles, en fait, en compagnie de l'UBAPAR sur un nouvel outil. On passe une journée ensemble. Jean-Marc resitue à chaque fois aussi les enjeux de ce choix-là, donc ça remobilise. On a fait aussi on a accueilli des formations de bénévoles aussi pour les bénévoles de l'association, pour porter ensemble connaître ensemble des certains outils qu'on n'utilise pas tout le temps tout de suite en fait, mais ça permet sans enjeu de découvrir des choses et puis de pouvoir les réactiver au moment où ça vient. Et surtout là, la formation avec les bénévoles, c'est sur les outils collaboratifs, et ça c'était chouette parce qu'on n'avait pas vraiment de besoin au départ et qu'on a découvert tout un panel de choses qu'on a pu réactiver, d'autant plus pendant le confinement où on était vraiment on avait besoin de ce renfort numérique pour travailler encore ensemble. Et voilà un petit peu les étapes de pour faire progresser. Je pense que maintenant l'association elle-même a décidé qu'elle voulait promouvoir aussi ce choix-là, et donc c'est quelque chose qu'on remet plus en débat et que l'on défend par conviction. Et donc je pense que maintenant on cherche moins à convaincre les uns et les autres, qu'on est plus dans l'affirmation en fait de ce choix-là comme évident, et puis voilà, on essaye de démontrer maintenant que c'est un choix pertinent, quoi.
Merci, c'est vraiment une belle évolution. On essaie un logiciel, ça marche bien, on est content, on découvre l'éthique qui en est derrière, et on devient ambassadeur de l'éthique de l'informatique libre. Je voulais savoir si vous faites aussi la promotion auprès de vos membres par rapport au logiciel libre.
Plus avec ces formations de bénévoles. Alors après aussi sur le site internet, mais parce qu'il y a à l'intérieur de l'association, il y a d'autres personnes qui sont militants aussi de ce sujet-là, et qui ont pu faire par exemple des fiches pratiques pour utiliser GIMP pour faire des affiches de spectacles, ou partager d'autres fiches pratiques comme celle-ci, voire même développer. En ce moment on a une équipe d'éclairagistes qui développe son propre logiciel libre.
Bravo.
Pour la régie de spectacle. Donc eux voilà continuent d'œuvrer avec les autres membres, mais nous c'est vrai que c'est plus avec les membres du conseil d'administration et l'équipe professionnelle qu'on est force de proposition pour se former. Et voilà, au grand public, on est plus dans l'affirmation, mettre en avant ce choix, mais pas forcément accompagner les autres dans cette démarche, quoi.
D'accord, merci beaucoup pour ces témoignages. Nous allons faire une pause musicale. Voilà, donc nous allons écouter un deuxième morceau de l'artiste Otto Almen, sélectionné par notre programmateur musical Eric Frodin du site Au bout du fil, aubout-du-fil.com. Le titre du morceau, toujours inspiré par les univers Heroic Fantasy, est Death is Just Another Path. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter Death is Just Another Path par Ottolmen, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY 3. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui est consacré à l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres. Nous en discutons avec Jean-Marc Briand de l'UBAPAR, Anne-Cécile Voisin de la DEC 56 et Denis Dordogne d'Infini. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Donc nous allons reprendre notre discussion. Et cette fois, je m'adresse à Denis. Donc, des questions pour Infini. Je voulais savoir comment les associations frappent à votre porte. C'est-à-dire, vous êtes un hébergeur associatif, vous avez pas mal de membres, donc quelques centaines. Je voulais savoir comment vous vous faites connaître et comment les associations arrivent chez vous. C'est la proximité, c'est le fait que vous proposez des services sur logiciels libres.
C'est vraiment bouche-oreille, parce que...
Bouche-oreille.
C'est vraiment bouche-oreille parce que historiquement, c'est beaucoup d'associations qui sont membres et comme les bénévoles de l'association sont souvent dans plusieurs, c'est comme ça que le message passe. Au final, la très grande majorité des associations, quand c'est Internet, c'est chez Infini. Quoi.
Ce sont des associations bretonnes ou ça peut être des associations ailleurs en France ?
C'est essentiellement en Brest. Après, on en a un peu dans le Finistère et un peu dans la Bretagne et puis un peu dans la France entière. Mais c'est surtout Brest et avec la métropole. Quoi.
Donc, vous n'avez pas besoin en fait, de faire énormément de communication. Les associations viennent directement bouche-oreille. Mais ce que, pour moi, c'est important parce que si le bouche-oreille marche, ça veut dire que les services que vous proposez marchent bien et que vous faites un très bel accompagnement. J'imagine que vous avez des retours très, très positifs.
Ah, c'est ça. C'est notre grand point fort, c'est l'accompagnement. Hein. C'est l'association qui adhère. Elle n'est pas laissée à l'abandon. Elle peut venir voir sur place. Enfin, en ce moment, elle ne peut pas parce qu'il y a le Covid, mais quand c'est ouvert, elle peut venir voir le salarié sur place, prendre rendez-vous pour lui expliquer comment ça fonctionne, comment on se connecte, comment on voit des fichiers sur Internet, des choses comme ça. Donc nous, comme on n'utilise que des logiciels libres, on ne représente que des logiciels libres, hein, c'est logique. Et après les associations moi, je continue sur ta question suivante, je suppose, qui va être qu'est-ce qu'on fait pour présenter le logiciel libre. Donc ce qu'on fait, nous, en plus de la présentation qu'on fait aux nouveaux adhérents, on essaie de faire 5 ou 6 rendez-vous infinis par an. Donc c'est quoi rendez-vous infini ? C'est un soir, on prend l'apéro et puis on fait une présentation de logiciel libre. Donc je ne sais plus si c'était les derniers, il y a eu SPIP, il y a dû avoir site média. Enfin, alors, bon, SPIP, ça fait longtemps maintenant vu que cette année il n'y en a pas eu.
SPIP, tu vas l'expliquer.
un outil pour créer des sites.
Tout à fait. Et l'ADEX en concis, c'est sur SPIP, d'ailleurs.
Oui.
J'étais un temps rompu, Denis, je te redonne la parole. Tu parlais des rendez-vous infinis.
Bon, voilà. Sinon, il y a quelque chose qui est très bien, qu'on donne à toutes les associations, quand elles viennent. C'est le guide Libre Association, qui a été fait par le groupe de travail Libre Association de l'April. Donc, s'il y en a qui veulent voir, un site libre-association.info. Et ce guide est très bien. Ça reprend des logiciels utiles pour les associations, pour faire de la compta, pour faire gestion des membres, pour faire tout ce qui est utile dans une association. Quoi. Et ce guide est vraiment bien là-dessus, il y a vraiment des réponses pour tout.
Et ce guide est disponible, vous pouvez acheter la publication sur papier, mais vous pouvez aussi le télécharger, parce que bien évidemment c'est sous licence libre, donc téléchargeable librement, partageable, modifiable.
Pour les Brestois, quand ce sera ouvert, récupérable puis infini gratuitement.
Voilà. Et tu disais justement, vous êtes hébergeur associatif, donc c'est surtout hébergement des sites, liste de diffusion, mais vous avez aussi un local qui permet de voir les personnes. Donc il y a aussi une relation de visu, quand c'est possible, pas aujourd'hui peut-être. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important. On se sent plus rassuré quand on peut parler avec quelqu'un. Enfin, ce que je viens de dire, c'est assez logique. Je voulais savoir, c'est des questions qui peuvent être adressées aussi à UBAPAR. Quel est, d'après vous, le bilan que vous faites par rapport à l'évolution dans les pratiques des associations dans votre périmètre d'action? Est-ce que vous avez vu, parce qu'on parle de deux associations, de deux structures qui existent depuis vraiment plusieurs années maintenant, voire 20, 25 ans. Donc, est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que il y a eu comme disait Anne-Cécile tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un pic pendant cette période de confinement? Quel est votre retour sur ça, Jean-Marc, par exemple?
Oui, alors c'est vrai que si on parle des 20 dernières années, on va dire. Il y a eu une évolution assez lente, on va dire, une prise de conscience progressive, peut-être au fil des actions qu'on a pu mener pour accélérer les choses. Mais alors, s'il est question de cette année-là, j'ai l'impression quand même que beaucoup de gens ont réalisé l'importance que le numérique pouvait prendre dans leur existence. Et pour cause, hein, puisque c'est presque devenu le seul moyen ou de travailler ou de voir ses proches pendant quand même le mois de mars et avril. Donc, je pense plus que maintenant les gens doutent de l'importance que le numérique peut prendre dans leur existence. Après, est-ce qu'ils sont plus maintenant prêts à aussi... imaginez quel genre de numérique ils veulent pour prendre en charge ces parties même de leur vie et de leur existence. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais et puis peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai personnellement l'impression quand même que là on a peut-être mis le pied dans la porte de quelque chose, quoi. Si utiliser les services numériques, c'est enrichir les GAFAM, étant donné l'incertitude économique dans laquelle on est plongés tous par ailleurs, il y a quand même de quoi se poser quelques questions, quoi. Est-ce qu'on n'a pas quand même tous intérêt à reprendre la main sur ces aspects-là de nos vies?
Et vous l'avez vu concrètement aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des membres ou des personnes qui vous ont écrit, contacté? C'est une impression ou... vous avez vraiment des retours concrets?
Ben, pardon, je poursuis, mais très brièvement, on m'a demandé des choses du type, est-ce que tu connais un logiciel de visioconférence libre qui ne me surveille pas, quoi, par exemple?
Très bien. Et vous avez répondu?
Oui. Oui, j'ai répondu, mais c'est vrai que...
Et lequel lequel vous avez proposé?
J'en ai deux qui me viennent spontanément à l'esprit. C'est le logiciel Jitsi Meet, utilisé notamment par Framatalk et pas mal de services des chatons aussi, qui ont des instances de ces logiciels-là. Et puis, je pense aussi à Big Blue Button, qui est une alternative intéressante aussi. Après, si on veut réunir 30 personnes, j'ai peur qu'on tombe sur des problèmes de flux, parce que l'avantage que conservent quand même actuellement les solutions propriétaires, c'est qu'ils ont des moyens tellement colossaux à y affecter qu'ils sont capables de conserver un service fiable au-delà de plusieurs dizaines voire centaines d'utilisateurs, ce qui est pas réaliste quand on héberge soi-même sa solution, quoi, avec un serveur qui est forcément limité en volume, en taille et en ressources.
Pour Big Blue Button, vous redirigez vers quelle structure? C'est l'UBAPAR qui a une instance ou bien vous redirigez vers autre chose?
Ben nous, enfin moi perso, je me suis dirigé vers une association qui s'appelle faitmaison.net, qui propose une instance. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Je suis tombé sur celle-ci. Ça fonctionne bien pour mon usage et enfin pour l'usage que j'en ai avec mes collègues. C'est essentiellement un outil d'équipe, hein, pour l'instant. On travaille à distance via ce logiciel-là, de préférence. Et voilà.
Très bien. Je passe la parole à Denis. C'est la même question. Quel est le bilan? Quel est ton ressenti? Quels sont aussi... je tutoie Denis parce que c'est un bénévole de l'April, je le connais depuis un moment. Quel est ton ressenti et quelles sont aussi les actions concrètes, les retours concrets qui te font dire qu'il y a eu une évolution, si on l'a eu?
Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris pendant le confinement. C'est l'Infini, on n'a pas peut-être posé d'outils particuliers. On n'a pas eu beaucoup de demandes parce qu'on fait beaucoup de communication sur les chatons, donc les gens ont su trouver où c'était. Et trouver aucune invitation pour une réunion sur Google, pour une réunion chez Zoom, des trucs. J'ai vu passer que des trucs libres. Donc, je crois que le message est bien passé, en fait. Donc voilà, je sais pas quoi dire. J'ai pas fait grand chose, mais ça marche bien.
Quand tu dis je vois pas passer des invitations sur Zoom.
Parce que je suis membre de plusieurs stations en Bretagne.
Ah, d'accord.
Allô? Donc, je suis membre de plusieurs associations à Brest et j'ai vu qu'effectivement, on n'a plus de demande là-dessus. Quoi.
C'est une super bonne nouvelle.
Ouais, oui, les chatons, ils sont vraiment bien comme système pour répondre à ces besoins. C'est vraiment fait pour ça.
Tout à fait. Il y a des questions qui sont arrivées du public. Donc, je suis contente de vous adresser quelques questions du public. C'est la première est par rapport au lien que Loubapar, mais aussi Infini, tissent avec les GUL, c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs utilisatrices de logiciels libres, sur le terrain. Est-ce qu'il y a des liens forts? Est-ce que vous investissez du temps et de l'énergie pour construire des liens? Est-ce que vous vous contactez souvent? Est-ce que vous faites des choses ensemble? Denis, cette fois, en premier.
Alors, les associations qui font du logiciel libre, il y en a beaucoup. En fait, il est arrivé plusieurs fois qu'on veuille se regrouper, mais par exemple, le dernier regroupement qu'on a fait, c'était bien, on travaillait tous ensemble, et puis finalement, on a fait une structure de plus. Donc, avant, on était nombreux, maintenant, on est nombreux plus un. Et donc, chacun travaille un peu dans son coin, c'est dommage, mais c'est, mais en même temps, on se complète. Hein, donc, voir dans l'agenda du livre, on est 4 ou 5 associations qui sont déclarées de Brest et chacun fait des animations et on ne se perche pas sur les pieds. On ne travaille pas trop ensemble quoi, directement.
D'accord. Et Jean-Marc?
À Loubapar, on est plus, dans la coordination parce que comme on a une, on va dire, une rayon d'action plutôt régional, coup par coup plutôt des liens avec des groupes d'utilisateurs Linux locaux. Je pense notamment à l'occasion de la journée éducation populaire et numérique qu'on avait organisée à Kergris-Moëlou, on s'était rapproché d'une association de territoire qui était tout près à Rostrena, qui a été d'ailleurs très 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 présente hein, sur cette journée-là, qui a bien encadré ses ateliers et tout. Mais coup par coup, donc je disais, quand on a eu l'occasion d'organiser des projections soirées débat, là aussi on faisait appel aux groupes un peu locaux qui pouvaient être intéressés de venir nous épauler pour discuter avec les gens à l'issue de la projection, ou bien sur des actions. Il nous est arrivé aussi de venir en soutien d'initiatives locales de type Install Party quand on était contacté par justement un groupe plutôt d'utilisateurs locaux qui souhaitaient mettre en place quelque chose. Donc les liens, ils sont plutôt comme ça pour nous au coup par coup. Et bien sûr, ils sont toujours les bienvenus et ça fait toujours plaisir de rencontrer vraiment concrètement des gens motivés aussi et compétents sur le terrain.
Merci pour ces témoignages. Tout récemment, l'association Framasoft a publié un annuaire sur des structures d'accompagnement au numérique libre dans toute la France. Donc cet annuaire, il n'est pas exhaustif dans le sens que sont référencées uniquement les structures qui ont répondu à un questionnaire proposé par l'association. Néanmoins, c'est un honneur qui est hyper intéressant parce qu'il y a des dizaines et dizaines des structures qu'on peut découvrir par ordre alphabétique, par thématique, par périmètre d'action, par adresse du siège, etc. Et on, du coup, pourquoi je vous parle de cet annuaire, c'est parce que notre administrateur Laurent Costi de l'April, qui connaît Jean-Marc et qui te passe le bonjour. Il me dit qu'il y a eu un très bon souvenir de l'intervention logiciel libre à Loubapar le 29 et 30 avril 2011. Donc ça remonte à il y a un moment. Et c'est Laurent qui propose cette question, une question difficile, il dit. Comment pourrions-nous toutes et tous faire pour mettre encore plus de liens entre tous les acteurs et toutes les actrices de l'accompagnement, par exemple les structures recensées dans cet annuaire? Quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place? Donc je laisse la parole à Jean-Marc et puis je fais bien sûr intervenir aussi Anne-Cécile et Denis.
C'est vrai que c'est une question difficile, oui. que pose Laurent. Je ne suis pas sûr que j'aurai une réponse très pertinente à donner. C'est vrai que ça pourrait être important de coordonner une forme effectivement de mutualisation des idées, des ressources disponibles autour de cette envie qu'on a de diffuser autant que faire se peut la pratique et l'usage des logiciels libres dans les associations au niveau de tous les territoires francophones déjà. Et après, il existe peut-être déjà des choses de type le site de l'April. Moi, c'est aussi au travers de l'April que j'ai rencontré Laurent, que j'ai pu aussi m'intéresser à un certain nombre d'initiatives, commencer par la revue de presse, l'émission Libre à vous aussi. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent quand même servir, je pense, à rassembler. Alors après, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus direct, plus efficace? C'est difficile à dire. C'est déjà bien qu'on y réfléchisse et qu'on ait des initiatives comme ça qui peuvent nous parler et nous aider à dépasser un petit peu nos propres boutiques et nos propres préoccupations de territoire. Mais c'est vrai qu'il faut garder l'oreille attentive à ça, à ces initiatives, et essayer de porter d'amener aussi sa pierre un peu à l'édifice. Mais de toute façon, on a en face de nous des logiques commerciales tellement puissantes économiquement que vraiment faut vraiment serrer les coudes. C'est vraiment une histoire de liens, de relations à tisser entre des individus, des gens qui partagent la même préoccupation de reprendre un peu de contrôle dans cette folie mondiale qui commence à ne plus dont de moins en moins de gens comprennent de moins en moins de gens, je dirais, sont indifférents à ce qui est en train de se produire, je pense.
Merci Jean-Marc. Je laisse la parole à Anne-Cécile parce que même tu me disais, je pense au tutoyement, c'est plus simple. Même si tu me disais que vous occupez de théâtre, d'éducation populaire, mais vous êtes aussi maintenant vraiment convaincu. Tu parlais d'affirmation à chaque fois que vous parlez d'informatique libre. Est-ce que par exemple vous envisagez de mettre votre pierre à l'édifice, par exemple en mettant encore plus en avant les outils que vous utilisez, pourquoi les utiliser, est-ce que tu penses qu'il y a un rôle qu'une association qui ne s'occupe pas d'informatique peut quand même jouer sur le terrain, auprès de ses membres, auprès du grand public?
Mais, Enfin, oui, en tant qu'association d'éducation populaire, oui, on participe à différents événements qui interrogent de toute façon toutes ces questions et qui participent à l'émancipation. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a des points de rencontre. Maintenant, je pense que on fait, enfin, si on fait des choses, on ne le fait pas consciemment en portant le livre. C'est vrai que nous, ce qui nous motive, nos moteurs, c'est le théâtre, c'est la création artistique. Mais voilà, comme je le disais, il y a des bénévoles de l'ADEC qui tentent, enfin qui ont construit un logiciel d'éclairage et de régie de spectacle et qui tentent de le maintenir, de le développer. Et donc sans doute quelque part, voilà, il y a des petites comme ça ouvertures qui font qu'on met aussi les mains dedans, j'ai envie de dire. Mais je sais pas. Après, quand j'entendais quoi faire tous ensemble, c'est vrai que on sait dans nos mouvements que la recherche-action, c'est ce qui se fait le mieux, quoi. C'est quand on est en action ensemble et qu'on réfléchit aussi avec l'expérience partagée qu'on avance collectivement. Alors après, voilà, je laisse aux associations qui sont entièrement tournées vers le numérique le soin de nous concocter des fêtes et des rencontres nationales qui pourraient mêler tous les acteurs, qu'ils soient artistiques, culturels, sportifs ou informatiques.
L'intérêt de votre et de votre choix, pour moi, c'est la façon dont vous le soutenez, vous le défendez. C'est-à-dire que votre contribution la plus importante peut être vraiment la contribution de témoignage. Voilà, c'est une association qui n'a absolument rien à voir avec l'informatique et pourtant vous avez complètement adhéré à l'éthique. Donc vous pouvez témoigner, vous pouvez Loubapar par exemple vous contacter pour que vous puissiez contribuer à rassurer les associations, à montrer comme finalement c'est possible de le faire, c'est possible d'utiliser des logiciels libres, d'aider, d'accompagner, de faire des formations. Et donc, je pense que vous avez effectivement un rôle à jouer par rapport à votre retour d'expérience. Je laisse la parole à Denis, toujours à ce sujet, cette question difficile. Est-ce que c'est difficile pour toi aussi, Denis ?
Non. Ah non, parce que nous, on a la chance d'avoir fait que du logiciel libre et faire que ça, donc c'est naturel. Donc on accompagne déjà les gens, on leur présente les choses, on fait des événements pour leur présenter. Après oui, on pourrait faire des événements un peu plus cunélémiques, on va dire, pour faire aussi du spectacle, etc. Ça va voir, pourquoi pas. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, on est bloqué sur toutes les actions. Donc bon, le jour où on reprendra, on essaiera de faire des choses bien et mieux. Après, pour ceux qui veulent vraiment s'engager pour travailler à améliorer l'objet du logiciel libre d'association, Vous participez au groupe de travail, un libre association, il n'est pas réservé aux gens de l'April. Donc libre-association.info, il y a un truc s'abonner quelque part, je crois. Et là, on peut discuter entre gens, donner des conseils sur les associations, dire les problèmes qu'on rencontre, etc. Que des gens qui sont motivés pour travailler là-dessus, qui sont sur la liste, donc il faut en profiter.
Excellente suggestion, Denis, merci beaucoup. J'ai une question pour Anne-Cécile, qui est sur le salon de chat. Est-ce que tu penses, Anne-Cécile, que la valeur de partage qu'on imagine important pour le théâtre joue dans votre choix, dans le choix d'ADEC aussi?
Oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, enfin après c'est très large le partage. Je pense que oui, dans les critères dans le champ de valeur, voilà, qui nous a rapprochés, il y a bien sûr que ce soit ouvert et que tout le monde puisse être acteur de ça. Moi, je crois que c'est plus ça que finalement le partage est très large, mais je pense en tous les cas de pouvoir permettre à tout le monde de prendre sa place aussi dans cette utilisation du numérique. Ça a eu une grande importance parce que ce soit voilà dans logiciel PMB ou maintenant sur notre site SPIP ou dans d'autres d'autres outils qu'a pu nous partager l'UBAPAR ou que l'on peut construire nous-mêmes maintenant, c'est vraiment se dire, ben voilà, on les adapte, on les co-construit, on y contribue, l'humain, il existe à l'intérieur de tout ça, quoi.
Ça ne pouvait pas être mieux résumé pour la fin de ce sujet principal. prendre sa place, une place active et pas passive, c'est ça aussi qui permet l'informatique libre. On est arrivé à la fin de ce sujet principal. Je vous remercie vraiment beaucoup pour avoir accepté notre invitation et pour votre intervention. Merci et à très bientôt et bon courage pour tous vos projets.
Merci.
Merci.